Avant de vous donner le serment, je vais vous rappeler qu'il y a une retraite pour ménage, ouverte pour les hommes et pour les femmes, donc entre la fête de Noël et la fin de l'année, donc du 26 au 31 décembre. Donc j'ai encore beaucoup d'ouverture pour cette retraite, n'hésitez pas à vous inscrire. Aussi pour ceux qui ne sont pas déjà au courant et qui vont de temps en temps à la messe, ils sont passage sur Nantes, attention, à partir du 18 décembre, donc j'arrête la chapelle de Nantes pour une série de raisons, c'est beaucoup trop fatigant pour moi de faire presque 80 000 km par an maintenant pour assurer ces messes tellement loin d'ici. Et pour ces raisons, aussi une raison financière, j'arrête donc la chapelle de Nantes à partir du dernier dimanche là-bas, aura lieu, ce sera la messe du 11 décembre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes en ce temps de l'Avent, donc en ce temps de préparation pour la fête de Noël, et évidemment l'Église nous demande d'utiliser ce temps de pénitence pour nous préparer à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. On peut comparer notre âme en crèche à une vitrine. Quand des passants passent devant la vitrine, eh bien, si vous voulez que, en tant que propriétaire de cette vitrine, si vous voulez que les gens rentrent dans le magasin pour voir ce que vous avez à vendre, il faut que la vitrine soit attirante. Donc on va arranger proprement la vitrine, mettre peut-être des petites lumières, des choses jolies en vitrine, pour que les gens s'arrêtent, admirent la beauté de la vitrine et du coup soient tentés de rentrer à l'intérieur du magasin pour faire marcher votre commerce. On peut aussi, bien sûr, comparer notre âme à une crèche. Il faut que la crèche ait un minimum de propreté. Lorsque Saint Joseph est arrivé à la crèche de Bethléem, ce n'était pas un hôtel 5 étoiles. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par nettoyer, certainement. Il a dû faire un balai avec des ajoncs, avec des branches, et puis nettoyer un petit peu l'étable pour que la crèche soit plus ou moins propre, au moins plus ou moins propre pour recevoir notre Seigneur. Il ne pouvait pas faire grand-chose à l'époque. Eh bien, notre âme, c'est comme une crèche. Et le bon Dieu nous demande, bien sûr, de préparer cette crèche pour que notre Seigneur Jésus-Christ ait envie d'y pénétrer. Pas simplement envie d'y pénétrer, mais envie d'y rester. Pour que notre Sainte Vierge Marie, qui vient avant son Fils, parce que c'est elle qui prépare l'arrivée de son Fils dans notre cœur, pour que notre Sainte Vierge Marie, elle vienne juste avant l'arrivée de son Fils dans notre cœur et achève la préparation. Elle va nous dire ce qu'il faut faire. Elle s'y connaît en matière de réception de notre Seigneur. Elle s'est occupée de lui pendant 33 ans. Donc elle va nous dire ce qu'il faut encore modifier, changer dans la crèche de notre âme. Peut-être un certain nombre de choses qu'il faut encore déplacer, qu'il faut encore éliminer peut-être, qu'il faut un peu arranger pour que notre Seigneur Jésus-Christ vienne, trouve la Sainte Vierge Marie déjà en place dans notre âme, et du coup il a envie de s'y installer, d'y vivre. Alors voyons un petit peu, mes bien chers frères, les conseils que nous donne l'évangéliste Saint Matthieu aujourd'hui. Donc il dit que notre Seigneur envoie son ange devant notre face pour préparer la voie devant nous, c'est-à-dire pour que le chemin d'accès à la crèche soit préparé, soit propre. Il ne s'agit pas simplement que la crèche elle-même soit propre, ça ne suffit pas. Il faut aussi que le chemin d'accès qui y mène soit également dégagé. Imaginez la crèche elle-même soit propre, mais que le chemin est rempli de ronces, de pierres, et de boue, eh bien évidemment personne ne voudra rentrer dans la crèche, même si la crèche par elle-même est propre, parce que le sentier qui y mène est plein de cochonneries. Il faut donc savoir nettoyer toutes ces choses-là. Alors, Saint Matthieu va utiliser un certain nombre de termes, et ce sont les termes qu'il faut comprendre, surtout au sens figuré. Vous savez que derrière le sens historique de la Sainte Écriture, les apôtres, les pères de l'Église voyaient toujours un sens mystique, et c'est sur ce sens mystique qu'ils ont toujours prêché. Et comme il nous faut, en tant que prêtre, interpréter l'Écriture sainte comme l'Église l'a interprétée pendant des siècles, il faut donc retourner à cette explication des pères pour essayer de comprendre ce que l'Écriture sainte veut dire. Parce que qu'est-ce que nous dit notre Seigneur? Notre Seigneur va, par Saint Matthieu, parler toute une série de gens, il va dire les aveugles vont venir et vont trouver la vue. Les boiteux vont venir et vont retrouver l'usage de leurs membres. Les lépreux vont être purifiés. Les sourds vont entendre et les pauvres vont être évangélisés. Et c'est donc ces cinq points sur lesquels il nous faut nous-mêmes insister pour comprendre ce que le bon Dieu veut faire dans notre âme. Première chose que nous dit Saint Matthieu, c'est que les aveugles vont retrouver la vue, doivent retrouver la vue. Qu'est-ce que c'est que cette cécité spirituelle dont parle Saint Matthieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement le symbole du manque de foi. On le voit très bien dans l'Évangile juste après la résurrection. Peut-être vous vous rappelez ces passages. Les apôtres avaient perdu la foi au vendredi jeudi saint soir. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été livré Judas aux Juifs pour être condamné, les apôtres ont tous se sauvé comme des lapins. Ils ont perdu la foi. Et le courage aussi. Certes, ils continuaient d'aimer tendrement notre Seigneur, mais ils ne croyaient plus en sa résurrection. C'est pour cela qu'après la mort, le vendredi saint, il n'y a plus un seul qui restait sur place parce qu'ils pensaient que tout était terminé, tout était fini, parce que notre Seigneur Jésus-Christ était mort. Ils avaient oublié ce que notre Seigneur Jésus-Christ leur avait dit plusieurs fois, le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Et on voit très bien que comme un châtiment, en quelque sorte, de ce manque de foi, ils ont perdu la vue. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va leur apparaître, ils ne le reconnaissent plus. Premier cas qu'on voit très bien dans l'Évangile, c'est le cas de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, qui elle aussi avait perdu la foi en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, va au tombeau pour essayer d'achever les préparations, les derniers préparatifs avant la décomposition du corps. Parce qu'encore une fois, elle a perdu la foi en ce qu'il avait dit, qu'il ressusciterait le troisième jour. Et elle trouve le tombeau vide, alors elle s'assoit sur la pierre et elle pleure. Parce qu'elle a perdu son maître. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît. Elle ne le reconnaît pas. Pourquoi? Manque de foi. On voit la même chose avec les disciples d'Emmaüs, Saint Luc, Saint Cléophas, qui est aussi complètement découragé, en pleine désolation, s'en vont tout abandonner. Ils s'en vont et querellent ce qui s'est passé. Notre Seigneur Jésus-Christ, pourtant qu'ils connaissaient très bien, s'approche, se joint à eux, participe à leur conversation, ils ne le reconnaissent pas. Pareil, même chose, manque de foi. Et encore plus tard, sur le lac de Génézareth, alors que les disciples étaient en train de pêcher, notre Seigneur Jésus-Christ leur apparaît sur le rivage et la même chose. Ils ne le reconnaissent pas, toujours par manque de foi. Donc cette cécité, cet aveuglement d'esprit dont parle Saint Matthieu aujourd'hui représente justement ce manque de foi. Pour les apôtres, le manque de foi n'a été que temporaire, puisqu'ils vont retrouver la foi. Ils vont retrouver la foi d'abord imparfaitement lorsqu'ils vont voir notre Seigneur Jésus-Christ et après beaucoup plus parfaitement après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Eh bien, mes bien chers frères, nous sommes nous un peu comme des aveugles. Nous aussi, nous avons du mal à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis d'aller au ciel. Nous avons du mal à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ nous attend au ciel pour ce qu'il attend pour nous d'aller occuper la belle place qu'il a préparée pour chacun d'entre nous au ciel. Et pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons cette crainte constante? Parce que nous rendons très bien compte que notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu homme crucifié. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ soit Dieu, ça ne nous gêne pas. Qu'il soit homme, ça ne nous gêne pas trop. Mais un homme crucifié, c'est un peu gênant. Parce qu'on se rend très bien compte qu'il nous faut achever ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ à condition qu'il n'y ait pas de croix. Ce n'est pas possible. Pas de croix, pas de clé pour entrer au ciel. Les pères de l'Église qui comparaient la croix à une petite clé qui ouvre la porte du ciel. C'est pour cela que sans esprit de pénitence, il est impossible d'aller au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, a-t-il dit. Donc cet aveuglement de l'âme est représenté justement par ce manque de foi. En priant pour que notre manque de foi ne soit chez nous qu'un manque de foi temporaire, que nous retrouvions rapidement la foi. Alors si nous nous rendons compte que notre foi est quelque peu versatile, que notre foi est faible, que nous manquons de force dans notre foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller justement auprès du médecin de l'âme que le bon Dieu a mis sur notre route, auprès de la médecine de l'âme pour retrouver en quelque sorte une acuité visuelle, spirituellement parlant, beaucoup plus forte. Et comment allons-nous retrouver cette acuité visuelle? Justement par la confession. Ce n'est pas la confession en général qu'on retrouve la force de l'âme. Ce n'est pas la confession et bien sûr la communion qui suit, par la réception de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, que nous trouvons la force d'ouvrir les yeux de notre âme pour comprendre ce qui se passe. Le deuxième avertissement de notre Seigneur par Saint Matthieu, c'est à propos des boiteux. Les boiteux sont des gens qui ont une jambe plus courte que l'autre. Ils ont du mal à marcher. Qu'est-ce que représentent les boiteux? Les boiteux sont des gens qui sont, comme on dit vulgairement, assis entre deux chaises. Ce sont des gens qui veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils aiment bien notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils aiment bien aussi le monde, alors ils veulent suivre aussi le monde. Et donc c'est comme des gens, si vous voulez, qui ont une jambe plus courte que l'autre, ils n'arrivent pas à marcher sans claudiquer, sans boiter, parce que justement, quelque chose qui ne va pas dans leur démarche. Notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que nul ne peut servir de maître à la fois. Ou on aime le monde, ou on aime notre Seigneur Jésus-Christ, et de la voix, ce n'est pas possible. Quand on prétend aimer à la fois notre Seigneur Jésus-Christ et le monde, quand on estime que l'on peut garder dans notre âme à la fois l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ et l'esprit du monde, il y en a des deux qui doivent partir. Et en général, c'est notre Seigneur qui s'en va. Il ne reste plus que l'esprit du monde. Donc notre Seigneur nous avertit justement d'utiliser aussi cette fête, ce temps de l'Avent pour justement... pour enrayer cette claudication, pour que nous puissions retrouver un saint usage de nos membres spirituels, pour pouvoir nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à nous, mes chers frères, si nous restons boiteux. Les boiteux ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux, justement, parce qu'ils cherchent à la fois à plaire au monde et à plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Comment appelle-t-on les gens qui cherchent à la fois à plaire au monde et à notre Seigneur Jésus-Christ? Il y a un nom pour ça. On appelle les catholiques libéraux. Les catholiques libéraux sont les pires ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ parce que ce sont des gens justement qui cherchent à la fois à garder les yeux vers le ciel et à garder les yeux ici-bas vers le monde. Ils veulent bien aller au ciel à condition d'avoir soigneusement joui pendant des années et des années de tous les bonheurs terrestres. Notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que c'est impossible. Alors si nous sommes un peu boiteux, si vous vous rendez compte que notre attachement n'est pas clair, nous sommes à la fois attachés au monde et à la fois attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, demandons justement au bon Dieu de venir pour faire en nous cette chirurgie spirituelle, nous rendre le bon usage de nos membres pour que nous puissions vraiment suivre notre Seigneur Jésus-Christ sans chercher à partager sa gloire avec le monde moderne. Le troisième élément dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, il parle des lépreux. Et les lépreux seront guéris, seront purifiés. C'est une maladie épouvantable, très commune au temps de notre Seigneur Jésus-Christ en Palestine, et qui justement allait provoquer une espèce de pourriture littéralement. Les lépreux sont des gens qui vont pourrir littéralement sur pied. Et bien cette lèpre représente le péché mortel. Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours, on le voit très bien aussi chez les pères, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours comparé la lèpre au péché mortel. Et plus on attend, plus la pourriture est grande. Et au bout d'un certain temps, il n'y en a plus rien à faire, parce que tout est pourri. Et donc, si nous constatons que je suis lépreux, si je constate que je suis lépreux à mon âme, c'est-à-dire que mon âme n'est pas claire, mon âme n'est pas propre, parce que mon âme est envahie par le péché mortel, ou par la tentation de péché mortel à longueur de journée, ou tout simplement parce que je suis dans le péché véniel jusqu'au cou, mais des péchés véniels délibérés, donc je ne cherche absolument pas à me libérer, eh bien, il va manquer quelque chose dans ma vie. Et je ne pourrais pas me présenter, évidemment, à la porte de la crèche de Noël, le jour du 24 décembre au soir, précisément parce que mon âme sera lépreuse. Et donc là encore, peut-être que j'ai besoin, afin de nettoyer cette lèpre spirituelle en mon âme, j'ai besoin de me préparer une bonne confession. Donc, n'hésitez pas, pendant tout ce mois de décembre, je suis à votre disposition, bien sûr, ici, dans la journée, pour vous confesser, pour que vous fassiez une bonne confession avant la fin de Noël et vraiment ouvrir les portes de votre âme toute grande pour que la crèche de votre âme devienne vraiment un lieu de prédilection pour notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur parle aussi des sourds qui vont entendre. Qu'est-ce que cette surdité spirituelle? Cette surdité spirituelle, ce sont tous ceux qui ferment les oreilles de leurs âmes pour ne pas entendre les reproches de leur conscience. Et il dit justement la liberté de conscience comme une excuse pour rester dans le péché. Sourd spirituel, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, qui ferme volontairement les oreilles de son âme pour être sûr qu'il ne change pas de vie. Une espèce de mauvaise volonté épouvantable là-dedans, qui est très fréquente pour les temps qui courent. On reste dans le péché, on garde des occasions prochaines volontaires de péché grave pour être sûr qu'on ne sorte pas du péché. Et c'est évidemment une espèce d'hypocrisie très grave devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que si on garde de nouveau cette surdité spirituelle en nous, il ne faut pas prétendre pouvoir jouir un jour de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, ce n'est pas possible. Alors si je constate en moi que je suis sourd, que mon âme est sourde, eh bien, commençons à nettoyer bien l'oreille spirituelle de notre âme. Je constate que j'ai du mal à manifester un intérêt pour toutes les choses spirituelles, en général, c'est que je suis sourd, à cette surdité. On peut repérer cette surdité spirituelle qui est extrêmement fréquente aujourd'hui chez les catholiques par un fait très précis, c'est qu'on a une espèce d'ennui qui nous envahit dès qu'on parle de choses spirituelles. Dès qu'on lit des choses spirituelles, dès qu'on essaie de faire un travail spirituel pour former notre âme, on a une espèce de lassitude immédiate qui s'installe dans notre âme. Une espèce d'assédie, une espèce de paresse qui nous empêche de travailler. En général, ça veut dire qu'on est sourd. Il y a cette surdité spirituelle. Le bon Dieu nous demande à ce que les sens, si vous voulez, spirituels de notre âme soient largement ouverts pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ ne rentre pas dans une âme comme un voleur. Il ne va pas prendre un pied de biche pour ouvrir la porte qui ne veut pas s'ouvrir. Il frappe à la porte. Il attend. Et s'il voit qu'on ne veut pas répondre parce qu'on est endormi ou qu'on veut seulement dormir, il refrappe à la porte. Mais attention à la grâce qui passe et qui ne repasse pas. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas obligé de passer, de frapper à la porte et de rester attendre à la porte pendant des heures et des heures. Rappelez-vous la parabole des vierges folles et des vierges sages. Le bon Dieu les a prévenus avant, mais les vierges folles n'ont pas pris soin de mettre de l'huile, d'avoir de l'huile de réserve pour leur lampe. Et bien lorsque l'époux arrive, et bien elles ne sont pas là. Et notre Seigneur Jésus-Christ va rentrer dans son royaume en prenant avec lui les vierges sages et les vierges folles qui vont arriver quelques instants après, vont s'exprimer à la porte, mais ne vont pas pouvoir rentrer parce que personne ne va leur ouvrir. Et elles vont frapper à la porte en disant « Ouvrez-nous, ouvrez-nous, nous sommes là, nous attendons. » Et que va leur dire notre Seigneur Jésus-Christ ? « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas voulu justement utiliser les grâces que je vous ai fournies pour pouvoir être prête au moment où je vais venir. » Enfin, les pauvres, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, les pauvres seront évangélisés. Nous sommes, mes bien chers frères, vous et moi, nous sommes les pauvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ a un amour tout particulier pour les pauvres. Il a d'abord pour tout le monde, mais il a un amour tout particulier pour les pauvres. Quels sont ces pauvres? Et ces pauvres sont justement ces gens qui n'ont pas encore compris l'importance des richesses spirituelles. N'oublions pas que c'est un système de vases communicants. Plus notre âme est envahie de choses matérielles, moins il y a de place pour les choses spirituelles. Plus notre âme se débarrasse des choses matérielles, plus il y a de la place pour les choses spirituelles. Et plus il y a de choses spirituelles dans notre âme, moins il y aura de place pour les choses temporelles. C'est une espèce d'équilibre qui doit s'effectuer parce que, évidemment, le bon Dieu ne nous demande pas de vivre comme des anachorètes du 3e siècle et vivre dans une grotte ou au sommet d'un arbre. C'est parce qu'il nous demande. Et donc, il faut cet équilibre qui doit s'effectuer pour avoir en nous un grand, grand désir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pendant ces quelques jours qui nous restent avant la fête de Noël, bien chers frères, vérifions un petit peu tout ça. Est-ce que je suis un aveugle? Est-ce que je suis un boiteux? Est-ce que je suis un lépreux? Est-ce que je suis sourd? Est-ce que je suis un pauvre d'esprit? Un pauvre devant notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que j'ai vraiment l'esprit de pauvreté? Est-ce que j'ai vraiment ce désir de posséder notre Seigneur Jésus-Christ? C'est la sœur de saint Thomas d'Aquin qui lui demandait une fois quelle est la première condition pour aller au ciel. Et saint Thomas, le grand saint Thomas, de répondre, le désirer. Un grand, grand désir du ciel. Et on dit qu'il y a un purgatoire spécial pour les gens qui ont vécu un état de grâce pendant toute leur vie, qui n'ont pas assez désiré le ciel. Il faut avoir ce grand, grand désir de notre Seigneur. Et c'est là où, en conclusion, on peut utiliser la très belle phrase que nous trouvons dans l'épître aux Romains d'aujourd'hui. Il dit que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans votre foi. Donc si justement je me bagarre pour ne pas être un aveugle, pas être un boiteux, pas être un lépreux, pas être un sourd, pas être un pauvre, à ce moment-là je vais pouvoir remplir mon cœur de la foi, de l'espérance et de la charité. Ayant en moi cette foi, cette espérance et cette charité, alors j'aurai en moi les fruits du Saint-Esprit, surtout la paix et la joie. Voilà pourquoi les gens du monde moderne sont tellement malheureux. Sont tristes comme des balais en longueur de journée. Pourquoi? Parce qu'il leur manque l'essentiel. Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque cette union avec notre Seigneur. Et le temps de la de l'avant, mes bien chers frères, est un temps justement pour nettoyer notre âme, nettoyer la crèche de notre âme, faire sortir toutes les scories, toutes les choses qu'on vient à faire dans notre âme, et remplir notre âme avec les choses du bon Dieu. Alors encore une fois, si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, parce qu'il y a une belle pagaille dans notre âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la trace de la Vierge Marie. Écoutez, venez un peu voir un peu ce qui se passe chez moi, puis vous me direz ce qu'il faut faire. La Troisième Vierge Marie va venir, elle va frapper à la porte, elle va s'inviter chez vous, chez nous, chez moi, et puis qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va visiter la maison. Elle va dire, ouh, là, il y a encore la poussière dans les coins, il faut passer l'aspirateur. Et puis là, j'ai vu un truc qui ne doit pas y être, mon fils, ça ne va pas lui plaire ça, il faut enlever ça. Et puis là, une belle pagaille, là, il y a une série de choses aussi qui n'ont rien à faire dans la famille d'un catholique. Vous savez, le bon Dieu, la télévision, c'est pas trop son truc. Alors faites attention à enlever ça avant qu'il arrive. La Sainte Vierge nous donne toute une série de conseils. Je vous conseille beaucoup de noter ces conseils. C'est on dit qu'il faut nettoyer ça, régler telle chose, tel problème, tel problème. Après, une fois qu'elle part, on règle tout. Puis une semaine après, on la réinvite de nouveau. J'ai fait des changements, venez voir. Elle revient, on dit, bon, ça va, c'est bon. Maintenant, mon fils peut venir. Voilà, mes chers frères, voilà comment il faut considérer justement la fête de Noël. La fête de Noël, c'est une fête de préparation de notre âme. Préparer notre âme pour qu'elle devienne une petite crèche, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse y venir. Alors demandons, mes chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de la toute sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.